aujourd'hui au balado SportAid, tête à tête avec une invitée de marque, Madame Elda Moreno, qui est chef du service des droits des enfants et des valeurs du sport au Conseil de l'Europe. Bonjour Elda.
Bonjour Sylvain.
Bonjour, merci d'être avec nous, c'est grandement apprécié.
C'est pour moi surtout.
Ah ben, je préparais ça aujourd'hui et je me souvenais qu'il y a 2 ans, presque jour pour jour, on était ensemble en Finlande.
Ah oui, c'est vrai.
À votre invitation, j'avais été participer à un panel là-bas, puis ça me rappelait c'est la dernière fois, je pense, que nous nous sommes vus. Dans la discussion qu'on va avoir dans les prochaines minutes, Elda, on va aborder différentes pistes, évidemment liées à ta fonction, à notre mission chez SportAid, donc les environnements sportifs sains et sécuritaires. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais que tu nous fasses un portrait, ton parcours, comment tu en es venu à occuper cette fonction importante au Conseil de l'Europe, donc pour voir à la protection de la sécurité et de l'intégrité de nos jeunes sportifs.
OK. Bon, il faut dire que les droits des enfants et moi, c'est une vieille histoire qui a commencé quand j'étais très jeune. En fait, quand j'avais 14 ans, c'était un moment où les États, au niveau des Nations Unies, se sont dit on va faire une convention sur les droits des enfants. Et puis, ils ont célébré une année internationale de l'enfant. Et puis, ils ont consulté quelques 300 enfants sur ce qui devait être la Convention des droits de l'enfant. Et moi, j'ai eu la chance de participer à cette consultation. Donc, j'ai représenté l'Espagne. Donc, avec 14 ans, d'un coup, j'ai rencontré des enfants un peu partout dans le monde et on a discuté. Et ça m'a tellement ouvert les yeux sur l'intérêt de l'international, l'intérêt du sujet, que ça a certainement marqué mon parcours. Et puis, quand j'ai étudié du droit, j'ai tout de suite foncé vers les droits de l'homme. Et puis, les conseils de l'Europe, c'est l'Organisation européenne des droits de l'homme. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite essayé d'y entrer et j'ai réussi.
Est-ce que c'est une fonction qui existait avant que tu y accèdes?
Non. En fait, c'est l'une des chances que j'ai eues dans ma carrière, c'est que donc il y a en 2003 ou 2004, il y a eu l'élection du secrétaire général adjoint du Conseil d'Europe, donc Maud Bourg-Boukikyo, une Hollandaise, est devenue la numéro 2 de l'organisation. Et moi, à ce moment-là, j'étais au cabinet du secrétaire général. Et quand elle a pris fonction, elle m'a appelée, elle m'a dit « Elda, je viens de passer beaucoup d'années à la Cour européenne des droits de l'homme. Je me suis rendu compte qu'il n'y a presque pas d'affaires concernant les droits des enfants et c'est surtout les droits à l'enfant. Et il se passe quelque chose. Les enfants, ils n'ont vraiment pas accès à la justice. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ce que j'ai dit avec la position privilégiée que j'avais au cabinet, je pouvais, et avec l'autorité de la secrétaire générale adjointe, je pouvais, rassembler tout le monde et dire, bon, maintenant, on va faire quelque chose sur les droits des enfants. Et on a créé un programme nouveau en 2006 qui s'appelle Construire l'Europe pour et avec les enfants. Et donc, l'une des fonctions principales de ces programmes, à part de mobiliser toute l'organisation au sujet, à ces sujets, c'était aussi de faire du mainstreaming, hein, d'intégrer la perspective de l'enfant dans toutes les politiques et toutes les actions du Conseil d'Europe. Et c'est comme ça que c'est arrivé au sport aussi.
Moi, j'ai réalisé l'intérêt du Conseil de l'Europe pour la protection de nos jeunes sportifs presque à pareille date, mais il y a 3 ans à Madrid, parce que j'étais présent au lancement de Start to Talk en Espagne. Mm-hmm. Quel a été l'élément déclencheur dans l'historique du Conseil de l'Europe pour avoir développé cet intérêt, cette volonté de protéger nos jeunes sportifs? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Bon, c'était surtout, le Conseil de l'Europe est une organisation des droits de l'homme et quand on a réfléchi pourquoi les enfants, que ce soit dans les sports, dans l'école, à la maison, ils sont victimes de violences, ils n'ont pas leur mot à dire, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, c'était parce qu'on continuait à traiter les enfants comme objets de protection ou des charités, vraiment pas comme des sujets des droits. Donc, et pour nous, c'est dire les enfants ne sont pas des mini-personnes avec des mini-droits. Ce sont des personnes à part entière et il fallait aller chercher les enfants où ils passent leur temps et voir comment dans ces endroits ils sont ou pas protégés, quels sont les risques qu'ils encourent et quels sont les acteurs qu'il faut mobiliser pour créer des environnements plus sûrs et plus protecteur et où les enfants aussi, ils peuvent s'épanouir et avoir leur mot à dire. Donc, en 2016, on m'a offert la possibilité unique de aussi être responsable. Donc, j'étais responsable du domaine enfance et on m'a demandé si ça m'intéresserait de m'occuper du sport aussi, alors que je ne connaissais pas grand-chose de sport.
Ah non?
Donc, non.
Tu ne venais pas du monde du sport?
Non, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit qu'à mon médecin, il a laissé réjouir parce qu'il m'a dit c'est toujours du sport. Donc, maintenant, je vais lui dire. Donc, mais ça m'a tiré surtout aussi comme une chance incroyable de aussi partager, promouvoir les valeurs à travers de cette pratique sportive, de ce monde du sport qui est, moi, je trouve, passionnant. Et donc, au moment où on m'a confié cette mission, donc j'ai tout de suite fait coïncider les deux. Je dis, bah alors, on va vraiment essayer de voir comment on peut mieux protéger les enfants dans l'environnement sportif, comment utiliser le sport pour vraiment pour l'épanouissement des jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on est arrivé à faire les projets que tu connais bien, comme Start to Talk. C'était un peu pour faire. J'ai fait des ponts entre les équipes.
Toi qui arrivais de l'extérieur du monde du sport, as-tu été surprise de réaliser, de constater, de découvrir que dans le monde du sport, comme dans d'autres sphères de la société, il y avait des abus, puis que malheureusement, bien, on avait des enfants qui étaient victimes de ces abus-là?
En fait, ce qui m'a interpellée quand j'ai découvert un peu le monde du sport, c'est ces principes de l'autonomie sportive, en tant que juriste surtout, et le décalage qu'il y a maintenant aussi, surtout parce que le sport a pris donc une importance aussi économique tellement énorme, et les enjeux sont tellement énormes, et le fait que les États, les gouvernements qui sont tout d'abord avec les familles les premiers garants de la protection des enfants, vis-à-vis de la communauté sportive, c'était en retrait. Donc, finalement, c'était comme, d'un côté, les organisations sportives, ils ne s'occupaient pas trop bien, ils ne savaient pas comment faire, etc. Et d'un autre côté, les gouvernements s'interdisaient aussi de se mêler de ces affaires. Donc, et d'un coup, au milieu, on avait des enfants. Et bon, il y a bien sûr le problème d'abus sexuels qui existent dans tous les environnements qui sont fermés, où il y a des
relations d'autorité,
des ménages de pouvoir, etc. Et ce qui, pour moi, était aussi intéressant, c'est voir d'aller chercher la spécificité par exemple, des abus, des causes qui peuvent, et les environnements ou les raisons pour lesquelles il y a certains risques qui sont plus grands dans les domaines sportifs. C'était certainement, pour moi, je me demande s'il y a d'autres environnements, où, parce qu'on a parlé souvent de la relation entre les parents et les enfants, bien sûr, par exemple l'inceste, ou entre un prêtre et donc dans les domaines de l'Église, mais franchement, comme dans les domaines sportifs, l'emprise qu'il peut avoir un entraîneur sur un enfant, je pense qu'il y a, enfin, c'est... C'est peut-être l'environnement où je trouve le plus fort
Est-ce que c'est ce qui t'a surpris le
l'attention.
est-ce que c'est ce qui t'a surpris le plus de réaliser la place que l'entraîneur occupe dans la vie d'un jeune sportif? Ah oui. C'est plus important encore qu'en milieu scolaire?
C'est-à-dire que moi, je m'étais, enfin, parce que bien sûr, mes enfants, ils pratiquent du sport et je me rendais bien compte des pouvoirs qu'il y a donc un entraîneur dans la vie d'un jeune athlète. Mais ce qui est incroyable, c'est aussi les pouvoirs, enfin, le fait que cette personne n'est pas mise en cause par les parents, par les clubs. C'est vraiment le fait que nous, parents, on se pose beaucoup de questions avant de confier notre enfant à une telle école, à une telle nounou. Hein. Mais quand on va, et ça, j'ai parlé souvent avec les entraîneurs, on confie les enfants à une structure sportive, on ne pose pas des questions, on pose des questions où est-ce qu'on achète les habits ou quand est-ce que sont les entraînements, mais on ne pose pas des questions comment
Pourquoi
est-ce que
c'est
cette
comme ça?
personne est là.
Pourquoi c'est comme ça, tu penses?
Je sais pas, je pense qu'il y a une a priori positive vis-à-vis du sport.
Est-ce qu'on idéalise? On idéalise trop le monde du sport?
Oui, je pense que peut-être pour enfin, je pense que la majorité des gens maintenant, à cause de tout ce qui sort, enfin, tout le scandale et tout ça, les gens, ils commencent vraiment à voir. Je pense que maintenant, les gens, ils sont plus au courant des risques, etc. Mais je pense que pour la majorité des gens, il y a cette approche, cette a priori positive du monde du sport. Ils ne peuvent pas s'imaginer, comme il y a des a priori, ou il y avait des a priori positifs vis-à-vis de la religion. Des prêtres, etc., des milieux religieux, on pense que c'est des gens qui vont nous protéger par défaut, et ce qui est le cas, l'immense majorité des fois. Mais voilà, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un qui en idéalise puisse faire du mal à nos enfants.
J'aimerais que tu nous parles un petit peu de. Et là, j'ai un blanc de mémoire sur l'une des lettres de l'acronyme, là, l'APES, c'est l'accord politique élargi en sport, c'est bien ça? J'aimerais que tu nous en parles un petit peu depuis quand il est en place, comment vous avez réussi à mettre ça en place, ça m'impressionne, là. Alors, j'aimerais ça t'entendre sur les origines de cet accord.
Donc, je disais, le Conseil d'Europe, c'est l'organisation des droits de l'homme en Europe. On a 47 États membres, donc pratiquement toute l'Europe. Et donc, notre seule mission, on est différent de l'Union européenne. Hein, ça, c'est une autre organisation différente avec moins d'États. Mais nous, notre mission principale, c'est de bâtir l'Europe sur les valeurs de l'État des droits, de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, mais malgré le fait qu'on a cette mission tellement ambitieuse, tellement importante, on a un budget qui est vraiment pas à la hauteur. Donc, à un moment donné, comment on s'organise? Donc, nous réunissons les responsables, par exemple, des sports de tous les pays membres et on travaille ensemble pour développer des politiques, pour identifier des problèmes, pour identifier des solutions, etc. Et pendant de nombreuses années, on a travaillé comme ça avec un comité des responsables des gouvernements sur les sports. Mais à un moment donné, quand il a fallu trouver des économies. Dans certains États, le Conseil d'Europe a dû de faire des choix très, très compliqués et on s'est dit, on ne peut pas se permettre de continuer à alimenter ces comités parce qu'on s'occupe de la torture, on s'occupe de la violence vis-à-vis des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Mais par contre, on a proposé aux États, voilà, ceux qui veulent continuer à travailler ensemble sur les domaines du sport, on va créer cet accord qu'on appelle cet accord partiel, c'est donc APES. Et comme ça, on donne à tout le monde qui veut rejoindre ces clubs, il paye. Et comme ça, on l'ouvre aussi à des États, même d'ailleurs que de l'Europe. Donc maintenant, je suis très contente parce qu'on a 39 États, donc c'est vraiment presque tous les États du Conseil de l'Europe. On a aussi Israël, le Maroc. Et vraiment, je rêve du moment où le Canada va rejoindre l'APES aussi. Et puis, ce qu'on fait, c'est vraiment de travailler avec le gouvernement, mais aussi avec les représentants d'une trentaine d'organisations sportives. Donc, on met ensemble les gouvernements et les organisations sportives pour justement s'attaquer à un problème, aux défis du sport, trouver des solutions ensemble et surtout dans la politique pour un sport plus sûr, éthique et inclusif. Donc, c'est ça.
Quand tu dis que tu rêves de voir le Canada joindre l'accord, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions en ce sens?
Il y a eu, mais bon, il faut que continuer à avoir. Hein. On nous dit, enfin, c'est vrai qu'il faut payer, mais moi, je pense pas que c'est énormément d'argent. Mais bon, je pense que ça
OK.
aiderait à. Je pense que l'Europe profiterait beaucoup de certaines choses qui se font très, très bien au Canada et au contraire.
Absolument. Moi, ce
Hein.
qui m'interpelle aussi dans ce que vous avez réussi à faire avec l'accord puis avec le Conseil de l'Europe, c'est comment on a pu réussir, et vous réussissez encore, à rassembler autant d'États avec des législations qui diffèrent d'un État à l'autre autour d'un but commun, d'une mission commune. Puis je vais te dire pourquoi ça m'interpelle davantage et je te pose cette question-là. C'est qu'ici, nous, au Canada, ben, tu sais probablement qu'il y a 10, il y a 13 provinces et territoires. Puis un des enjeux que nous avons, justement, c'est que les législations changent d'une province à l'autre. Et il y a actuellement un besoin qui est souvent nommé d'arrimer les pratiques du Canada national avec les pratiques des provinces. Et moi, je suis un ardent défenseur de dire. Oui, ça se peut que nous puissions nous parler et oui, nous devons le faire. Alors, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle ce que vous avez réussi à faire, que vous faites encore. Mais comment vous avez réussi ça, puis comment vous réussissez à maintenir ça?
Moi, je pense que c'est souvent à cause de l'évidence. Donc, c'est les pays, ce sont des défis globaux auxquels nous nous attaquons. Ce sont des choses, des problèmes que personne ne peut résoudre dans son coin. Donc, il est évident qu'il faut coopérer. Et donc, le fait de maintenir cette plateforme en permanence où on se parle tous les temps des sujets qui émergent, des problèmes que tous les États doivent affronter, fait qu'on peut aussi se préparer des choses qui commencent à venir et que les États, ils savent pas comment répondre. Donc, pour eux, déjà, pour commencer, c'est une plateforme où ils apprennent des solutions que les uns et les autres sont en train d'essayer. Et puis après, il y a quand même cette vision commune de vouloir avancer ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, à élaborer des traités internationaux, comme par exemple, nous avons la Convention de Lanzarote, qui est pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, les abus sexuels. Et celle-là, elle a été ratifiée par tous les États du Conseil d'Europe, par les 47 et par la Tunisie. C'est aussi une convention qui est ouverte à d'autres pays dans le monde. À l'époque, quand on a négocié cette convention, je me souviens que j'allais avec cette dame, la secrétaire générale adjointe du Conseil d'Europe, qui était l'une des ambassadrices de cette convention. On allait visiter les pays. Donc, pour vendre, si on veut, cette convention, qui demandait toute une série de choses très importantes. J'étais dans des conversations avec des présidents du gouvernement, des premiers ministres, où ils disaient, mais c'est très bien votre convention, c'est super, mais chez nous, on n'a pas ces problèmes parce qu'on aime les enfants chez nous. Donc, alors on était à ce moment-là dans la négation totale. Du problème. Donc justement, avec ce travail ensemble, on fait de la recherche, on montre les données, il y a la pression, donc les publics commencent à demander, les parents commencent à demander, tout le monde commence à demander. Donc petit à petit, les pays vont faire leur cheminement, certains plus rapidement que d'autres. Donc il y a 10 ans, je me disais, enfin, est-ce qu'on va arriver à faire entrer cette convention dans les législations de tous les États, et puis voilà, c'est fait. C'est fait, c'est possible.
Comment tu expliques qu'en certains endroits encore, on fait peu ou pas pour protéger nos jeunes sportifs? alors que c'est de notoriété, là, on a un problème, là. Comment on s'explique ça? Et l'autre question que j'ai envie d'ajouter, pourquoi aussi à certains endroits, on est omnibulé par le doping, puis il faut éliminer le doping à tout prix, mais on s'occupe pas beaucoup de la santé psychologique et physique de nos sportifs.
Ben, je pense que malheureusement, des fois, c'est les enjeux économiques hein, qui font que on fait des priorités. Des fois, c'est aussi le manque de connaissances et les dénis. Hein, donc, c'est maintenant avec tout scandale après scandale que les gens ils commencent à voir les proportions, les dimensions du problème. Parce que je pense que ça a pris tout le monde de court que une seule personne puisse abuser des centaines d'enfants pendant des dizaines d'années. C'est une seule personne. Enfin, ça, c'est quelque chose qui vraiment n'entrait pas dans la tête des gens. Donc, je pense que malheureusement, il a fallu qu'éclatent ces quelques cas très importants pour que et maintenant les organisations sportives aussi sentent la pression, sentent les besoins d'agir pour ne pas être pris au dépourvu. Et elles veulent aussi. Déjà pour prévenir ce qui puisse se passer, mais aussi pour pouvoir dire on a fait tout ce qu'on a pu ou on a fait quelque chose.
Les médias dans tout ça, comment tu vois leur rôle dans cette éducation, dans cette sensibilisation? Pourquoi je pose la question, c'est parfois, et nous, on a, je pense, modestement réussi à changer cette approche des médias qui avaient l'habitude de nous solliciter, mais pour donner notre avis sur ce qui était arrivé. Pour parler, pour dénoncer le nombre d'agressions, les méthodes utilisées. Alors que nous, on passe notre temps à leur dire aux médias, ben ça, on ne pourra jamais régler ce qui est arrivé, le passé, porter un jugement sur les agissements de quelqu'un, mais si vous voulez que l'on parle ensemble des choses que l'on peut faire ensemble pour éviter que ça se reproduise, il y a encore beaucoup trop de médias, selon moi, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, qui ont le réflexe malheureux d'aller dans le sensationnalisme qui n'aide pas la cause. Comment les médias pourraient être plus contributifs à changer les choses?
Moi, je pense que ça, c'est la même, enfin, la question que se pose vis-à-vis des médias en général et l'enfant, par exemple. Il y a des codes de conduite. Il faut vraiment le faire accepter, des codes de conduite vis-à-vis aussi, enfin, bon, malheureusement, des fois, les médias ont mis en danger les enfants. Ils ont, à cause de la façon, enfin, ils n'ont pas protégé leur privacité, etc. Et donc, mais même, et pas seulement les enfants, comme tu le sais, il y a des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont dénoncé des années, beaucoup d'années après, et puis après, ils étaient harcelés par les médias. Et je trouve qu'il y a une partie des médias qui vit de ces sensationnalismes. Mais il y a d'autres médias qui sont aussi beaucoup plus sérieux et nous, on essaye toujours de travailler avec ceux qui veulent donner des espaces pour justement pour parler des solutions. Mais bon, c'est vrai que c'est la nouveauté, la news hein, qui fait avancer les médias. Mais je pense que de plus en plus, ils créent des programmes, débats, etc., où ils laissent la place justement à la discussion sur les solutions.
Comment tu vois le rôle des administrateurs dans la structure sportive, dans les clubs, dans les organisations, le rôle qu'ils ont à jouer, l'imputabilité qui leur revient, quel jugement, quel regard tu portes sur leur rôle?
Bon, je pense qu'il y a, enfin aussi, si tu me permets, je suis assez relativement nouvelle dans le domaine du sport, hein, mais mon regard, enfin, je vois deux problèmes fondamentaux. D'un côté, le fait qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Donc, c'est vraiment un environnement qui est majoritairement masculin. Et d'un autre côté, c'est les problèmes de la gouvernance des organisations sportives. Donc, et les deux sont liés. Moi, je pense que l'égalité doit être fait partie des principes de gouvernance. Donc, et je pense que c'est si on arrive à faire entrer les principes de bonne gouvernance dans les travail au quotidien des organisations sportives, il y a beaucoup de problèmes qui pourraient être prévenus et résolus. Donc, je pense qu'il faut. C'est que j'ai observé que c'est bien sûr. Je ne voudrais jamais généraliser, mais j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans certains postes dans le monde sportif, qui sont des gens avec une carrière sportive, etc., mais qui n'ont pas nécessairement les compétences pour être des bons décideurs dans une structure sportive. Et s'ils n'ont pas, il faut que c'est entoure des gens compétents. Donc, je pense que si on arrive à faire à évoluer ça, je pense qu'on aura aussi, ça se traduira dans des améliorations pour les jeunes, mais bien pour tout le monde.
Tu viens d'aborder un volet intéressant qui m'interpelle. La formation, l'accompagnement de nos entraîneurs, de nos intervenants. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce qu'on pourrait faire mieux?
Moi, je pars de la base qu'on peut toujours faire mieux. Donc, je pense qu'on pourrait. Il y a beaucoup à faire encore sous la formation. Et je parle souvent avec des structures qui doivent mettre en place des formations. Et ils me disent, oui, mais il faut que j'ajoute un volet sur les drogues, un volet sur ceci, un volet sur cela. Et puis ils se disent, alors quand est-ce que je parle du sport? C'est vrai qu'il faut travailler ensemble pour voir comment améliorer les formations parce que quelqu'un qui travaille avec l'enfant doit savoir sur les développements de l'enfant, doit savoir hein, sur les risques que l'enfant court. Donc, il faut trouver les temps et les moments pour améliorer ces formations.
Mais trouves-tu justement, et je reviens sur un élément de question que j'ai abordé précédemment, où à certains endroits on met beaucoup d'importance sur l'antidoping. Quand je t'entends me répondre ça par rapport à l'accompagnement, la formation des intervenants, est-ce qu'on ne devrait pas reprioriser davantage le bien-être, l'environnement, l'encadrement de nos jeunes?
Mais moi, je pense que, par exemple, dans ce que nous on fait contre les dopages, le Conseil d'Europe a la première convention qui a eu au monde contre les dopages. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les dopages et on pense que c'est important. Mais on fait aussi de l'éducation pour justement prévenir les dopages. Donc, je pense que la prévention du dopage, ça fait partie de cet accompagnement sur le bien-être, dans un sport qui soit donc fair et sain, etc. Maintenant, je pense que là où peut-être on ne fait pas assez, c'est donc dans ce que je disais, le côté de la gouvernance. C'est pour ça, par exemple, maintenant, on est en train, nous, de regarder dans 7 pays. Qu'on a identifié, qu'ils ont porté volontaire, voir en détail comment est-ce qu'on peut élaborer on appelle ça des roadmaps, je ne sais pas comment dire,
Une feuille de route, des feuilles de route.
une feuille de route pour développer des politiques de protection, des child safeguarding, la sauvegarde des enfants dans le sport, mais en mettant ensemble tout le monde et en sachant, identifiant, OK, comme pour la formation surtout aussi des formations des officiers de protection de l'enfant, mm-hmm. des sauvegardes. Comment, où est-ce qu'on identifie les points, les opportunités? C'est qui devrait être en charge de la formation? C'est à quel moment? Comment on fait que, en sorte que ce soit en continu, qu'il n'y a pas, que ce soit pas juste une formation d'un jour et puis après on repart. Ben, on est en train de regarder avec 6 ou 7 exemples des pays très, très différents. L'idée, c'est vraiment d'extraire de cette étude en profondeur des leçons et pour après les partager avec le reste des pays. Pour voir comment dans différentes configurations des pays qui ont des structures fédérées, par mm-hmm. exemple, où il y a ou des pays où tout est complètement l'État délègue complètement dans les organisations sportives, tout ce qui est la politique du sport, ou des États au contraire très centralisés. Donc on va voir parce que le problème c'est que en tant qu'organisation internationale, mais comme tu m'expliquais aussi au Québec, il est très difficile d'imposer une même solution à tout le monde parce que les situations, les contextes peuvent être très différents. Mais il faut que les principes doivent être les mêmes. Mais après, il faut aller chercher un peu, creuser un peu plus pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces principes soient applicables à la réalité concrète.
Tu as évoqué dans une réponse précédente la faible représentativité féminine dans les organisations sportives. Qu'est-ce qu'on devrait faire sans passer par l'obligation de quotas à respecter sur les conseils d'administration? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour favoriser une plus grande présence des femmes dans le sport? Et au final, ben, c'est probablement qu'on aurait des environnements sportifs peut-être mieux adaptés parfois aussi aux jeunes filles pour que les jeunes filles cessent de décrocher du monde du sport parce qu'elles se retrouvent dans des milieux qui ne sont pas toujours adaptés pour elles.
Alors, nous avons eu un projet très intéressant à l'APES qui est sur l'égalité en femmes dans les sports. Et la première chose qu'on a souhaité faire, c'est d'essayer d'avoir une photo de la situation. Donc on est allé chercher des données sur toute une série des sujets, par exemple, les rôles ou la place des femmes sportives dans les médias. La violence contre les femmes dans le sport, la représentativité des femmes dans des structures, enfin, dans les schémas des directions des organisations sportives, quoi d'autre, les femmes coach. Donc, il y a 6 ou 7 domaines dans lesquels on est allé chercher des données, et je pense qu'on a fait une 15aine de pays ou quelque chose, c'était assez important. Et je vous encourage vraiment à regarder, on a fait une espèce de tableau de bord où on peut aller par sport, donc par type de sport, par pays, par question pour voir les données. Et c'est assez impressionnant. Donc, une fois qu'on a cette photo, donc on se dit, ah, bon, s'il y a tellement de peu de... c'est vraiment une confirmation des choses qu'on savait déjà, mais avec des données très impressionnantes. Donc maintenant, en même temps qu'on faisait ça, on travaillait avec les pays pour voir quelles sont les politiques, les mesures qu'on pourrait prendre pour, par exemple, rendre la pratique sportive plus accessible aux femmes, en sachant que, par exemple, des femmes, souvent, ils ont beaucoup plus de mal de se libérer à 21 heures pour pratiquer leur sport. Ou que les structures sportives, ils sont dans des endroits où peut-être pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile de s'y rendre. Et que les réunions des directions des organisations sportives sont dans des moments où les femmes ne peuvent plus mm-hmm. être disponibles. Donc, il y a toute une série des mesures. Donc, il faut aller voir quels sont les obstacles, en fait, et pourquoi les femmes, peut-être des fois, même c'est auto-censure, enfin, se disent « Non, je ne vais pas me présenter, j'ai peu de chances qu'on me prenne. » Et après, bon, comme on a vu les femmes, par exemple, arbitres, on a eu récemment en Allemagne, il y a eu un cas assez qui a fait la une des médias, c'est qu'il y a un entraîneur pendant un match, il a agressé verbalement une arbitre, une femme arbitre, en disant bah, les femmes, ils ont qu'à aller à la cuisine, ils n'ont rien à faire dans le foot. Donc, il y a eu un jugement. Et le gars, il a été condamné à une suspension, plus une amende, plus à entraîner des équipes de femmes. Alors, c'est quand même, on ne fait pas une punition, ça.
Ben voyons donc.
Des femmes. Donc ça dénote un peu aussi l'ambiance. Donc si en tant que femme, j'ai envie d'être arbitre, mais si après, il faut que je souffre de tous ces sexisme, de tout ça. Donc, il y a peut-être... il y a certaines qui sont vraiment très...
C'est repoussant.
Quand même. Donc, je pense que les obstacles sont bien identifiés. Mais c'est vrai que des fois, les clubs, par exemple, ils ont du mal à trouver des gens qui soient volontaires pour faire ceci et cela. S'ils facilitaient l'accès des femmes à certains rôles, ils auraient 50% plus des personnes disponibles. Hein. Donc, je pense que... Mais bon, on a eu dans ces projets, et c'est tout accessible en anglais, en français, dans les sites web du Conseil de l'Europe. C'est vraiment intéressant. Je pense que... Et on va continuer avec ces projets. Parce que justement, ça a été, les résultats étaient assez importants.
J'ai une question délicate à poser, mais comme vous naviguez, vous travaillez en collaboration avec plusieurs pays, tu vas comprendre pourquoi je me permets de la poser. Il arrive souvent, nous, et j'ai l'impression qu'ailleurs aussi, qu'on vit des situations de comportement, de violence psychologique, de harcèlement. Et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est peut-être un manque de connaissance des individus et que c'est lié à leurs origines culturelles parce que dans leur pays, c'est accepté, c'est permis. Puis dans leur pays, leur sport, bien, c'est comme ça que ça se joue. Et là, quand ils arrivent dans un autre contexte, ils ne s'adaptent pas à leur lieu d'arrivée, où ils arrivent. Et là, ça cause, en mauvais français, un clash. Là. Il y a vraiment une confrontation au niveau des cultures. Comment on pourrait sensibiliser puis travailler à changer ça?
Ça me rappelle beaucoup le travail que nous avons fait sur les châtiments corporels. Donc, où il y a, maintenant en Europe, il y a une trentaine de pays qui ont interdit les châtiments corporels, mais dans beaucoup de pays, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donner à un enfant une claque, c'était tout à fait normal, c'était dans l'éducation, c'était pour son bien. Et alors, dans certains pays qui ont interdit les châtiments corporels depuis des décennies, ils sont retrouvés avec cette question qu'avec la migration, donc des familles qui avaient d'autres références culturelles et donc où ils viennent des pays où ça, c'est pas un souci. Bien sûr, importe leur façon de faire. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas 3000 solutions. Il faut expliquer. Il faut expliquer ici, chez nous, on fait ça, on a évolué par rapport à la façon où on traite les sujets, les personnes, etc. Ça, c'est notre cadre de référence. On peut expliquer, on peut aider. Je me souviens, par exemple, pour suivre avec cet exemple, pour les châtiments corporels, les parents qui étaient habitués à discipliner leur enfant avec des gifles, des tapes et tout ça, s'ils reçoivent pas un plan B, donc quelque chose à faire à la place, ils sont perdus, ils savent pas comment donner un cadre. Donc vraiment, il faut expliquer, non, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Donc on donne les outils pour que les gens apprennent à faire autrement. Donc, mais on peut pas espérer, c'est normal, ça, idéalement partout, on devrait respecter tout le monde de la même façon, mais il faut accepter que c'est des fois rien à voir avec la culture, C'est vraiment la famille, cette personne-là, qui a évolué dans un contexte qui était différent au nôtre. Donc, il y a d'autres personnes de la même culture qui s'adaptent parfaitement et qui ont les mêmes références, les mêmes codes. Mais je pense qu'il faut être très, très attentif, mais surtout donner des outils et pas juger tout de suite et aller vers les stéréotypes.
La prochaine question, je vais te la poser parce que, bon, je connais un peu vos activités pour parler souvent des membres de ton équipe. Il y a une chose sur laquelle je pense que je n'ai jamais posé la question, savoir si est-ce que ça existe ou est-ce que vous y travaillez. Parce que comme vous êtes en contact avec plus d'une quarantaine de pays, est-ce que vous avez un outil de traçabilité des entraîneurs? Pourquoi je pose la question? C'est que nous, on a vécu une situation dernièrement où, dans un sport, il y a un entraîneur qui arrivait d'un autre pays et qui, dans le pays où il était, ben, ses pratiques avaient été dénoncées. Puis il est arrivé ici, puis on s'est aperçu que, oups, il avait des pratiques qui étaient inacceptables. Est-ce que vous avez un outil, vous, est-ce que vous travaillez sur un projet quelconque ou avec une traçabilité quelconque, vous pouvez éviter qu'un entraîneur se promène d'un pays X à un autre, puis on a un profil de nos individus, là.
Bon, ce que nous avons, c'est avec la convention de Lanzarote dont je parlais tout à l'heure, qui est sur un sujet spécifique, c'est les abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Où les pays, c'est dès qu'ils ratifient cette convention, ils font en sorte qu'ils puissent partager des données, mais ce sont des gens soit recherchés ou condamnés. Donc, et pour un délit. Hein, donc, on ne parle pas des personnes qui a été, enfin, qui n'a pas été condamnée ou dont les pratiques ne sont pas adaptées. Mais c'est vraiment des gens qui sont allés loin, loin, donc jusqu'à commettre des crimes. Mais ce n'est pas spécifique au sport, c'est vraiment spécifique au type des crimes. Donc, pour faire en sorte justement que ces gens qui en plus, ils font en sorte de chercher ils sont des volontaires dans des ONG, enfin, ils changent de pays, donc, qu'on puisse vraiment éviter dans la mesure du possible qu'ils refassent et recommencent quelque part ailleurs.
Est-ce que vous travaillez avec des organisations de sport professionnel?
Alors, donc, nous avons des accords de coopération, des mémorandums, hein, avec FIFA et UEFA, par exemple. Et bien sûr, dans le cadre des EPAS, hein, donc, ou de l'APES, hein, donc, ces accords dont j'ai parlé sur le sport, il y a 29 organisations. Certaines sont des organisations professionnelles. Et donc, pour nous, on couvre tout, donc, tous les spectres, donc, les sports de base et les sports professionnels. Donc, dans les sports professionnels, on travaille beaucoup, par exemple, aussi sur, à part ces questions dont on vient de parler, on travaille beaucoup aussi sur la manipulation, enfin, des compétitions sportives, hein,
Ah,
sur,
OK, les paris sportifs.
voilà. Sur les paris, sur les dopages. Là, demain, on va avoir la première réunion d'un comité, d'une nouvelle convention sur la sécurité et la sûreté dans les événements sportifs. Donc, à cette occasion qu'on organise, par exemple, un débat sur le racisme dans les événements sportifs, les racismes, les discours de haine. Donc, et là, on travaille avec les organisations professionnelles et aussi, par exemple, avec des organisations des athlètes qui sont de plus en plus mobilisés aussi pour défendre leurs droits, que ce soit leurs droits accès à la justice dans les domaines de la justice du sport, par exemple dans les cas contre des dopages, mais plus généralement hein, sur la violation de leurs droits dans les contextes sportifs.
Et pour ce qui est de l'APES, concrètement, là, c'est un comité de travail qui se réunit périodiquement avec un agenda, puis des dossiers que l'on pousse ensemble. C'est les représentants des gouvernements Est-ce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans les structures sportives aussi qui...
Oui, donc il y a à l'APES, il y a deux structures, si on veut, et qui travaillent ensemble. D'un côté, il y a les gouvernements, donc les représentants de tous les gouvernements des 39 États qui ont rejoint l'APES. Et l'autre côté, c'est les organisations sportives. C'est une trentaine d'organisations sportives. Et donc, ce qu'on fait, c'est les gouvernements qui décident, mais les structures sportives, les organisations sportives, ils ont un statut consultatif, donc au consultatif. Donc, quand les gouvernements, par exemple, actuellement, ils sont en train de réviser la charte européenne du sport. La charte européenne du sport, c'est comme vraiment le vademecum de ce que devrait être la politique sportive des États en Europe. Donc, quels sont les principes qui devraient guider cette politique, quels sont les acteurs de cette politique, les sujets prioritaires, etc. Donc, on est en train de réviser ça et ils le font ensemble. Donc, les organisations sportives peuvent poser des questions, demander des changements, etc. À la fin, c'est les gouvernements qui vont adopter ces textes, mais les organisations sportives, que ce soit la société civile comme d'autres organisations, ils peuvent vraiment proposer des changements importants qu'après ils sont pris en compte dans les textes. Donc là, on travaille actuellement sur ça. L'APES aussi organise la conférence des ministres des sports du Conseil de l'Europe. Donc, on vient de finir une conférence des ministres des sports qui a travaillé sur les droits de l'homme et le sport. Et donc, il est des questions, par exemple, la protection des enfants dans le sport, mais aussi de l'égalité, de la gouvernance. Et ils ont aussi travaillé sur la prochaine, disons, la révision de la Charte européenne du sport. Donc, je pense que c'est vraiment un outil très, très intéressant parce que justement, à cause de cette possibilité de vraiment de travailler ensemble entre le gouvernement et les mouvements sportifs.
Sens-tu que la mobilisation est encore plus présente maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années pour prendre soin de nos jeunes sportifs, jeunes sportives?
Je suis pas sûre d'avoir compris si
mais est-ce que tu sens
est mineure?
Non, est-ce que tu sens que la mobilisation est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant?
Oui, je pense définitivement. Oui. Je pense et j'ai quand même par exemple on a mentionné tout à l'heure Start to Talk donc c'est donnant de la voix donc ces projets qu'on a lancés pour justement mobiliser les organisations sportives, les gouvernements, les parents, les enfants pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles dans les domaines du sport. Donc dans les cadres de cet effort par exemple j'ai rejoint un groupe de travail à la FIFA qui voulait justement changer les choses et commencer à faire de la prévention et une politique de sauvegarde des enfants dans les foot. Et là, ça a été rapide, donc ils ont vraiment voulu avancer rapidement. Ils ont lancé ces projets FIFA Guardians. Et donc, on voit quand même aussi comment, à cause de la pression, je pense que ça a été un choc pour énormément de gens, toutes ces révélations et tous ces scandales qu'on a eu pendant les 5 dernières années. Donc, ça a été, je pense aussi que le travail que nous avons fait avec Start to Talk et tout ce qu'on a mis sur la table a aussi mobilisé beaucoup les gouvernements. Donc oui, il y a beaucoup, de plus en plus de clubs, de fédérations, des équipes qui se positionnent et qui prennent des mesures. Maintenant, le défi, c'est que ce soit des mesures dans la durée efficaces.
Quels sont, selon toi, là, les plus grands défis que nous avons?
Pour
rendre nos environnements sportifs sains et sécuritaires. Ouais.
OK. Moi, je pense qu'il y a trois défauts à l'action en général. Il y a le premier défaut, c'est qu'on ne met pas la personne au centre. Donc, la dignité humaine, les droits de la personne, elle n'est pas au centre des décisions. Deuxième défaut, c'est que les gens, ils ne se sentent pas responsables. Les gens, les structures, les organisations, les autorités, soit ils sont responsables, soit ils ne savent pas quoi faire, comment agir. Et le troisième problème, c'est qu'on n'est pas coordonné. On ne travaille pas ensemble. Donc, pour moi, ça, c'est les trois grands défis. Si on arrive à mettre la personne dans le centre et vraiment faire en sorte que les politiques visent à vraiment au bien-être, à respecter les droits de cette personne, qu'on identifie très clairement qu'est-ce qu'on doit, chacun doit faire, chaque institution, chaque organisation, chaque personne dans son rôle, et on les forme et on les donne les outils pour les faire. Et puis, ensuite, on travaille tous ensemble pour une cause commune. Je pense que là, il y a énormément de problèmes qui disparaîtraient ou qui seraient bien, bien meilleurs gérés.
De l'autre côté de l'océan, quel regard portes-tu sur ce que l'on fait ici, au Canada et au Québec, de ce que tu en sais?
Ben, je mentirais si je disais que je sais ce qu'on fait au Canada. Je sais qu'il y a sur certaines choses où on suit avec beaucoup d'intérêt. Par exemple, donc vous avez fait pas mal sur la protection des jeunes sportifs et aussi sur les comment on appelle ça? Concussions, par exemple?
Les commotions cérébrales.
Les commotions cérébrales, ça c'est quelque chose qui... Donc on vient maintenant des comités des ministres et conseils d'Europe vient d'adopter une recommandation sur les arts martiaux et les sports extrêmes. La question des commotions cérébrales a été c'est encore largement ignoré en Europe. Donc il y a certaines choses que vraiment on gagnerait à s'en inspirer. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que le Canada entre dans la peste pour qu'on apprenne, on sache davantage.
Ben, tu n'as pas à me convaincre. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai cette discussion-là avec Clotilde que l'on doit... Nous, on va faire notre modeste pense pour t'aider là, en joignant le mouvement Start to Talk là, bientôt. On va annoncer des choses. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos jeunes sportifs? Puis je terminerai avec cette question-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme souhait pour nos jeunes sportifs?
C'est que je souhaite vraiment qu'ils puissent s'épanouir dans la pratique sportive, qu'ils puissent avoir tous les bénéfices. Le sport a tellement de bénéfices, que ce soit pour l'individu que pour la société. Donc, je peux que souhaiter vraiment qu'ils puissent bénéficier de tout ça et qu'ils puissent aussi apprendre pour aussi être les premiers défenseurs de leurs droits et des droits des autres. Je pense qu'on apprend énormément, nous, au Conseil de l'Europe, on travaille beaucoup sur la participation des enfants et les besoins de vraiment leur donner les moyens de aussi, eux, pouvoir être des défenseurs de leurs propres droits. Et c'est extraordinaire. Quand on a des enfants qui se sentent avec les pouvoirs de dénoncer, de démontrer, de créer, d'innover, d'influencer des décisions, c'est extraordinaire. On gagne toutes les expériences qu'on a où on a introduit la participation des enfants aussi dans les décisions des clubs, des organisations sportives et tout ça. Quand ça a été fait bien, c'est vraiment tout le monde adore. Finalement, vraiment tout le monde voit l'incroyable bénéfice comment les choses changent de façon positive. Donc, parce que enfin, les problèmes de la violence vis-à-vis des enfants, c'est aussi malheureusement les prédateurs et les gens, ils vont chercher les enfants les plus faibles, ceux qui vont vraiment pas être en mesure de parler de ce qu'ils ont peur. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on puisse donner aux enfants un environnement de confiance pour qu'ils n'aient pas peur de parler et que nous, on sache réagir à leurs paroles.
Et à nos décideurs, nos leaders, nos élus, les administrateurs, les politiques, quel message on pourrait leur lancer? Quelle invitation on pourrait leur faire?
À mon avis, il faut qu'ils écoutent davantage et qu'ils apprennent. Et donc, moi, je dis souvent maintenant dans cette pandémie que tout le monde critique. Enfin, moi, je navigue. Mon mari est allemand, mes enfants ont 3 passeports. Moi, je suis espagnole. On habite en France. Donc, on navigue entre plusieurs pays et on voit dans tous les pays qu'il y a d'énormes critiques au gouvernement, comment ils ont géré là. Moi, je me dis toujours que je n'aimerais pas être là à gérer, à devoir gérer ces foutues pandémies, mais c'est vrai que des fois, je pense que bien s'entourer des experts et bien écouter et bien voir quel est l'impact possible de nos décisions, ça c'est très important. Et souvent dans l'enfance, l'enfance c'est comme on y pense après. Donc, et il faut vraiment penser avant de prendre une décision. Maintenant, avec la crise qui va suivre la pandémie, donc il y aura des mesures d'austérité qui vont être prises. Alors, quel est l'impact que ça va avoir sur les enfants? Dans mon pays, en Espagne, ils ont interdit les enfants sortir à la rue pendant les confinements. Donc, les enfants étaient pendant des mois à la maison, pouvaient pas faire du sport, même pas courir dans la rue. Donc, c'est incroyable parce qu'on pense aussi l'activité physique, c'est aussi une façon de se protéger contre justement les maladies. Donc, et je pense qu'on n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi avant de prendre des décisions de ce type. Donc, je pense que c'est vraiment avoir un peu plus de
Faut
réflexion.
réfléchir et un peu de recul. Elda, merci beaucoup. Je suis très content que tu aies passé du temps avec nous. Je savais que ça allait être intéressant. J'espère que les gens vont avoir apprécié. Puis, on va se reparler bientôt, probablement sur des collaborations là, qu'on va annoncer là, ultérieurement. Mais vraiment, merci beaucoup, Elda.
Mais merci à vous et félicitations pour tout ce que vous faites. J'ai adoré la version québécoise de notre vidéo. J'adore le Canada. C'était mon voyage de noces, c'était de l'île de Prince-Édouard à l'île de Vancouver.
Ah oui?
En bus, en autobus et retour.
Oh là là!
Je connais bien le Canada. Donc, bonjour à tout le monde. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité.
Merci Elda, à bientôt.
Ciao.